Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur 48FM, il est 9h30, voici les titres avec Chelsea.
En Syrie, un gouvernement de transition a été nommé par les rebelles hier, mais la situation reste instable à l'est du pays. En Belgique, arrêt de travail dans les écoles ce matin. Les enseignants protestent contre le budget 2025 de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Une jeune professeure nous explique les raisons de cette mobilisation. Bientôt la bloc pour tous les étudiants, nous leur avons tendu le micro à l'approche de cette période cruciale. Et enfin, comment profiter de la vie étudiante, des soirées et des restaurants quand on ne peut ni manger ni boire de gluten? Reportage en fin de ce journal. En Syrie, un nouveau chapitre s'ouvre après 13 ans de guerre, Éléonore.
Effectivement, Mohamed al-Bachir a été nommé hier Premier ministre dans le gouvernement de transition après la chute du régime de Bachar al-Assad. Ancien ministre du gouvernement de Salut d'Idlib, hier, il a promis calme et stabilité. Ce gouvernement provisoire devrait durer jusqu'au 1er mars.
Mais les défis sont nombreux.
Oui, il s'agit d'unir une Syrie fracturée et menacée, stabiliser un pays en ruine et préparer une transition démocratique. Il devra de plus relever ses défis sous l'égide du groupe HTS, Organisation libérale de libération du Levant, la mouvance islamiste majoritaire parmi les rebelles. Et le leader de HTS, Abou Mohamed al-Jolani, a promis de juger les crimes du régime Assad. Dans un court entretien à la chaîne Sky News, il a assuré que le peuple syrien était épuisé par des années de guerre et qu'il n'y en aurait pas d'autres. Mais l'avenir reste incertain. Une chose est sûre, les attentes des Syriens pour un avenir meilleur sont immenses.
Et sur le terrain, les rebelles progressent. Ils se sont emparés de la ville de Deir ez-Zor, dans l'est de la Syrie. L'observateur syrien des droits de l'homme a indiqué que les forces kurdes s'étaient retirées en direction des localités voisines. Toujours à l'international, en France, le premier grand procès de MeToo se poursuit au tribunal de Paris. 5 ans de prison, dont 2 fermes sous bracelet électronique, ont été requis contre le réalisateur Christophe Rugia, accusé d'agression sexuelle sur l'actrice Adèle Hanel lorsqu'elle était mineure. La procureure a également demandé son inscription au fichier des délinquants sexuels, une interdiction de contact avec l'actrice et une obligation de l'indemniser. L'actrice française s'est exprimée avec émotion à la barre et a critiqué l'indifférence face aux conséquences des violences subies. Face à la défense de Christophe Rugia, elle a quitté la salle en criant, je cite, « Mais ferme ta gueule ». Et enfin, en Corée du Sud, l'ancien ministre de la Défense Kim Jong-un a tenté de se suicider hier soir dans un centre de détention à Séoul quelques minutes avant l'annonce officielle de son arrestation. Il avait démissionné après la proclamation avortée de la loi martiale par le président du pays. Placé sous protection, Kim Jong-un est en bonne santé selon les autorités. Ensuite, chez nous, nouvel épisode dans ce bras de fer entre l'enseignement et le gouvernement. Ce matin, les enseignants de la Fédération Wallonie-Bruxelles organisent un arrêt de travail dans leurs écoles. Ils protestent contre le budget 2025 qui doit être voté aujourd'hui. Alors pourquoi cet arrêt est-il important? Aurore Nardez, jeune professeure d'histoire, nous répond.
Les profs ont décidé de faire un arrêt de travail pour la simple et bonne raison qu'ils ont l'impression de ne pas être entendus. Les mesures prises par le gouvernement MR les engager impactent donc la vie des profs et la vie des élèves. Les profs vont devoir travailler plus dans des classes plus nombreuses et auront des conditions de travail de moins en moins optimales. Toujours plus d'élèves, toujours plus de rendement pour que ça devienne vraiment une entreprise. Sauf qu'en fait, derrière, il y a des élèves qui sont donc des êtres humains. Et le problème, c'est que soit on est dans le général et on les considère un peu, le qualifiant, on ne le considère pas du tout. On considère que ce n'est pas des penseurs, mais des travailleurs et qui n'ont pas accès aux études supérieures. On les laisse pour compte, comme s'ils n'avaient pas d'utilité dans la société, alors qu'ils sont clairement utiles dans la société.
Les professeurs sont invités à participer à cet arrêt de travail dès 11h et à faire du bruit avec des casseroles, des tambours ou encore des maracas pour exprimer leur mécontentement envers les mesures du gouvernement, a indiqué lundi Roland Lahaye, secrétaire général de la CSC Enseignement. En politique, Bart De Wever poursuit sa mission de formation après une 13e visite au palais. Les tensions du week-end liées à un tableau budgétaire jugé flou semblent s'apaiser. Une réunion tenue hier en début d'après-midi entre les leaders des 5 partis a permis de calmer les esprits. Et tous ont confirmé leur volonté de voir le formateur continuer. Bart De Wever fera donc son prochain rapport au roi le 20 décembre prochain. La Loterie Nationale a clarifié son rôle dans l'enquête visant Didier Reynders, ancien commissaire européen, soupçonné d'avoir utilisé ces jeux pour blanchir de l'argent. Dans un communiqué, elle souligne que les comportements suspects détectés respectaient les plafonds légaux, mais leur répétition sur une longue période a éveillé les soupçons. L'entreprise précise que ce cas est exceptionnel et qu'elle a pleinement coopéré avec la justice depuis 2022. L'enquête se poursuit. Et enfin, la période du blocus approche à grands pas. Avant cette phase cruciale de l'année académique, comment les étudiants gèrent-ils leur temps ? Et Léonore s'est rendue à Liège pour prendre la température.
10 jours avant le début du blocus, les bibliothèques sont déjà bien remplies, signe que pour certains, le compte à rebours a déjà commencé. Mais pour d'autres, les révisions intensives attendront.
Pour le moment, je suis dans le déni, je repousse. J'ai pas d'horaire spécifique avant la bloc. Je fais ce qui doit être fait quand je rentre chez moi, ou j'essaie de travailler un maximum quand j'ai des trous dans la journée.
Je compte étudier au début de la bloc, parce que j'ai pas le temps aussi avec les cours.
J'ai déjà commencé à étudier le vocabulaire, mais les cours, pas trop eu le temps.
La période est source de stress pour tous, quel que soit l'avancement des études.
De temps en temps, j'ai des petites piques de stress et donc je me mets à faire baisser la thèse et tout en catastrophe.
J'appréhende quand même. Ça me stresse quand même, mais bon.
J'appréhende un petit peu la période de bloc parce que c'est tout nouveau pour moi, mais je pense que ça devrait aller.
Que Seymen et Olizoï se rassurent, la bibliothèque sera ouverte toutes les vacances jusqu'aux examens.
Place au sport avec Julien.
En Champions League, le FC Bruges s'est imposé hier soir 2-1 face au Sporting Portugal grâce à un but tardif de Kasper Nielsen. Cette victoire importante place le club en position idéale pour atteindre la phase finale de la compétition. Mais ses prochains adversaires ne sont pas des moindres, la Juventus de Turin et Manchester City.
Toujours en football, le congrès de la FIFA devrait attribuer aujourd'hui à l'Arabie Saoudite l'édition 2034 de la Coupe du Monde masculine.
Une attribution controversée pour les ONG qui dénoncent une décision uniquement motivée par l'argent et prise de façon opaque, au détriment des infractions répétées aux droits de l'homme du Royaume saoudien. Les ONG et plusieurs médias pointent les relations étroites entre Gianni Infantino, patron de la Fédération internationale de football, et le prince régnant Mohamed Ben Salman. Tout comme pour la Coupe du Monde 2022 au Qatar, la question se pose également de la période où jouait ce mondial. Habituellement en été, les fortes températures dans la péninsule arabe en cette saison pourraient voir le mondial décalé en hiver, ce qui empiéterait sur le calendrier normal des joueurs.
Et enfin, le parcours du 10 km des European Running Championships 2025 sera dévoilé aujourd'hui.
L'itinéraire de ces championnats d'Europe de course sur route démarrera de Louvain jusqu'à Bruxelles. 83 mètres de dénivelé positif et déjà plus de 17 000 inscrits pour l'un des événements running majeurs ouverts à tout public. D'ores et déjà un record. La course démarrera le 13 avril prochain.
Merci Julien. Et pour conclure ce journal, à Liège, on boit de la bière et on mange des gaufres. Mais comment faire lorsqu'on est intolérant au gluten pour profiter de ses plaisirs locaux ? Julien a rencontré Amandine qui lui partage son expérience étudiante et ses bonnes adresses, sans blé ni orge.
Il y a des gens qui disent oui, mais il y a des bières sans gluten. Je les trouve absolument dégueulasses. Je sais pas si ça peut passer à la radio, mais en tout cas, elles sont pas bonnes du tout.
Depuis 3 ans, Amandine doit composer avec son intolérance au gluten. Elle nous fait découvrir ses bonnes adresses à travers la ville.
Chez Crème, un boulanger pâtissier. On est chez les Tartes Françoises et ils proposent aussi une tartelette qui est végane et sans gluten. Et juste en face, il y a Mexi Fraîche qui font des assiettes et aussi des nachos, donc les chips à base de maïs.
À défaut d'une bière sans gluten, on se contentera d'un café près de l'université. Pour Amandine, la vie étudiante n'est pas faite pour être vécue sans blé.
Avant, quand j'étais à l'UNIF sur le temps de midi, je vais vite aller chercher un sandwich à la cafette et basta. Alors que maintenant, oui, je dois prévoir beaucoup plus à l'avance. Je me fais souvent mes propres petits lunchbox la veille au soir pour mon midi. Donc en fait, je cuisine tous les jours. Il y a un certain coût qui passe là-dedans. Pour les chapis, c'est très compliqué vu qu'il y a quasiment que de la bière qui est proposée. Le dernier que j'ai fait, là j'ai fait Bob, du coup, parce qu'il y avait vraiment que de la bière.
Et c'est surtout le regard des autres qui dérange la jeune étudiante en histoire de l'art.
Ça m'embête quand même d'imposer en fait à mes amis d'être regardant là-dessus, de dire ah bah oui, on peut pas aller chercher une pizza. On a envie de se faire un restaurant italien, mais qu'est-ce qu'Amandine elle va pouvoir manger ? Par exemple, si on m'invite chez des gens, ah mais qu'est-ce qu'on peut te nourrir en fait ? Tu peux manger quoi techniquement ?
Au bas du menu du Café des Arts, un gâteau au chocolat sans gluten, signe que l'offre s'adapte petit à petit à la demande.
C'est la fin de ce journal, merci de nous avoir écoutés. Rendez-vous demain, même heure, sur 48FM.